Je suis venue présenter la pépinière, les jardins de Perlada. Et puis entre autres, là c'est la période de cueillette des pommes, donc j'ai plus de 80 variétés qui donnent là en ce moment dans la pépinière. Donc j'ai amené un petit peu un échantillon et puis une dégustation pour que les gens puissent découvrir tout ça.
Tu peux me parler un petit peu de cette pépinière ?
Alors c'est une pépinière qui existe seulement depuis 2010. Moi je reproduis, je greffe des fruitiers depuis presque 20 ans. Voilà, donc au fur et à mesure, avant je faisais du jus de pomme pour l'association Tout Autour de la Terre, c'est une association de partage de savoir-faire écologique. Et par le biais le fait de faire du jus de pomme pour faire vivre l'association, bah, du coup j'ai découvert plein de variétés locales chez les mamies papis du coin. Voilà. Et maintenant je les connais pas mal, il y en a plus de 60 que je connais bien, donc les gens peuvent venir m'apporter des pommes pour faire reconnaître. Et puis ma mission, donc je suis devenue pépiniériste par la richesse que j'avais sur place, et c'était pas du tout, je pensais pas du tout un jour être pépiniériste. Et le fait d'avoir tant de variétés locales que j'ai envie de sauvegarder, que j'ai envie que les gens connaissent et découvrent, je me suis mis la mission d'essayer d'être pépiniériste. Mais je tiendrai pas très très longtemps parce que c'est énorme comme travail, c'est beaucoup plus qu'une personne peut tenir.
Tu peux nous expliquer ce que c'est que le métier de pépiniériste ? Pour moi, c'est un pépiniériste, c'est quelqu'un qui vend des graines. C'est peut-être un peu plus que
dans
ça.
Dans l'idéal, ce serait ça. Ce serait parfait. si on plantait des pommiers du Kazakhstan qui se reproduisent, par exemple, par semis, ben voilà, le pépiniériste, il aurait juste à trimballer des graines dans ses poches. Ce serait parfait. Parce que planter un arbre par semis, c'est l'idéal. Maintenant, depuis la nuit des temps, les hommes greffent pour être sûrs de ce qu'ils vont avoir comme résultat. Et du coup, quand on greffe, ben si on veut vendre quelque chose, c'est plutôt un arbre qu'une graine. Et donc là, c'est plus complexe parce qu'il faut faut avoir des bons arbres en bon état. Et c'est tout un travail.
Donc tu vends des plants, en fait.
Je vends des plants d'arbres, voilà. Je vends des arbres et j'ai des centaines de variétés. Wow. 800 variétés anciennes greffées. Et après, encore peut-être 1000 autres variétés. Et parce que j'ai aussi des arbres mellifères, des arbres pour les fruits sauvages, les fruits oubliés. Ça, j'aime bien. Je suis là exprès pour ça, en fait. Il y a les pommes d'un côté, mais il y a aussi surtout la présentation des fruits oubliés.
Alors, pourquoi c'est important, justement, de ne pas les oublier, ces fruits ?
Ben parce que ça fait partie de la biodiversité qui était là, et à force de couper toutes les haies, de tout raser, ben en fait on est en train de perdre plein de trésors qu'on avait là autrefois et qui sont extraordinaires. Enfin, ce serait dommage de perdre ces... Moi je suis gourmande, donc je suis gourmande, mais je ne mange pas de sucre et j'ai des soucis de santé qui font que je ne mange que des fruits et des légumes, donc autant avoir des bons fruits et des bons légumes d'une grande diversité.
Et comment ça se fait qu'on les a oubliés ?
Mais petit à petit, parce que... Alors, il y a plein de raisons, en fait. C'est une question bien, bien complexe, celle-là. Il y a eu aussi, depuis le début du siècle, énormément de lessivage de cerveau par rapport aux variétés anciennes, qu'il ne fallait pas que ces variétés valaient rien et qu'il fallait produire de la golden. Enfin, voilà, il y a eu des écrits, il y a eu des mouvements nationaux au niveau tentatives d'extermination de ces... Bon, qui n'ont pas réussi, heureusement. Mais Michel Deslandes a trouvé un ouvrage où il y avait un récit assez effrayant sur ce sujet, sur comment propager les variétés modernes, entre guillemets, en les distribuant gratuitement, en passant par la SNCF pour la distribuer. Enfin, tout était organisé, quoi. Il faudrait lui demander exactement le texte à l'occasion.
Ouais. Alors là, tu disais, attends, que tu avais combien de variétés, tu disais, chez toi?
J'ai 230 variétés de pommes qui commencent un peu à donner. Là, il y a peut-être 70-80 variétés, un peu plus de 80, je crois, qui donnent cette année. Et j'ai 150 variétés locales.
Ouais. Voilà. Bon, là, tu n'as pas tout amené, mais on peut peut-être faire un petit tour de ce que tu as amené ici.
Ouais. Sur les fruits oubliés,
voilà,
par exemple.
On va commencer par là, si tu veux nous faire visiter.
Les fruits oubliés, il y en a pas mal. Il y en a quelques-uns là en dégustation, mais à cette époque, il n'y a pas énormément de choix. Donc, il y a la Mélanquier canadensis. Il y a des amélanquiers qui poussent autochtones ici en France, mais c'est les ovalis, ils sont un petit peu plus âpres, un petit peu plus amers au niveau du goût.
Alors c'est quel type de fruit, ça ressemble à quoi ?
Ça c'est des fruits qui ressemblent à des myrtilles. Mm-hmm. C'est un arbre qui est couvert de myrtilles, donc plutôt que d'avoir un buisson qui va donner 100 myrtilles, on a un arbre qui peut en donner des milliers.
Ah, c'est intéressant.
Et ça a un petit goût d'amande à la fin. Mm-hmm. C'est très joli au printemps, c'est très mellifère, c'est parfumé. Donc c'est un superbe arbre au printemps aussi, avec des très belles fleurs délicates. À l'automne il est orange, donc il est beau aussi. Et puis voilà, ça donne beaucoup de fruits. Il faut en planter pas mal, parce que les oiseaux aiment bien aussi. Donc si on a de l'espace, il ne faut pas en mettre qu'un, sinon on n'a pas... Des fois, les oiseaux mangent tout.
Ouais. Donc le fruit s'appelle ?
La mélange.
La mélange.
Après, d'accord. Il y a le cornouiller, cornus mas, le cornu mâle, qui est très très bon à manger pour nous, pour les oiseaux. Et ça se mange, il faut les récolter quand ça tombe de l'arbre, mettre un drap par terre, un peu comme pour les olives, et les ramasser quand ils sont bien mûrs, ils sont délicieux.
On les croque comme ça
ou en confiture, oui, cru comme ça aussi. D'accord. Allez-y, goûtez.
Ouais.
Il faut prendre un qui est bien
rouge,
dodu, ouais.
C'est bien rouge comme ça.
Ça, c'est moins bon.
Ah d'accord.
Il faut les plus mûrs.
Ouais,
là,
ok. Ah, attends, goûtez. Ah, mais il y a un gros noyau dedans.
Oui, voilà. J'ai oublié, il y a souvent soit des noyaux, soit des poils ou des choses qui font que. C'est pas la facilité forcément.
Il y a un petit goût acidulé qui est vraiment.
Ouais.
C'est vraiment sympathique. Hein.
Après, donc, il y a les nèfles. Alors, les nèfles, souvent, les gens, ils aiment pas parce qu'ils savent pas trop comment ça se mange, à quel moment. Donc, il faut attendre que ça soit blette, mais il faut pas les conserver trop longtemps parce que c'est un peu comme des pommes qui deviendraient farineuses au bout de 2-3 semaines. Après, elles sont moins bonnes.
Mais je pensais qu'il y en avait que sous des climats plus chauds.
Ah non, là, ça, c'est le Nephilia germanica. C'est le Mespilus germanica. C'est un néflier qui vient de l'Allemagne à l'origine, donc du pays froid. Après, il y a du néflier du Japon qui vont donner des fruits dans les pays plus du sud, méridionaux. Après, donc, il y a des variétés anciennes de noisettes qui s'adaptent à ici, des cognassiers. Cognassiers, c'est pareil, il y a des variétés extraordinaires aussi qui sont à redécouvrir. Ça, c'est le cognassier du Japon, qui est très bon aussi, très très parfumé.
Alors attends, et ça avec ces coins-là, on peut en faire que des confitures ou il y a d'autres
usages? Voilà, c'est pour faire des confitures,
c'est comme les coins, c'est plus en confiture, c'est petit, ouais.
Ils par sont rapport un peu plus petits que les coins, mais ils sont très parfumés.
Ouais, effectivement, on sent d'ici un petit odeur épicée comme ça.
Alors un autre qui n'est pas autochtone, mais qui s'adapte super et qui a un très bel arbre, qui vient de Sibérie, c'est l'arbre à pois. Donc là, on n'a pas besoin de se baisser pour ramasser les petits pois, on peut attraper des gousses de pois dans les arbres. Il est derrière le stand.
D'accord.
Je vais aller le chercher.
Ok.
Donc l'arbre à pois, il est extraordinaire parce que c'est un des plus puissants fixateurs d'azote. Donc si on a un sol pauvre, voilà, ça c'est extraordinaire pour ça. Et ça fait des fleurs qu'on peut manger et des fruits, donc des petits pois qu'on cueille sur l'arbre. Et il résiste à moins 45, donc il n'y a pas de problème sur le plateau.
Ah ouais, donc sur le plateau c'est parfait.
Voilà, ça vient de Sibérie.
Très bien.
Après, donc pareil que l'arbre à pois, il y a l'arbre à fèves qui résiste bien au froid aussi. Ça, c'est un grand arbre et on peut manger les fèves. Les fèves dans l'arbre, ça ressemble un peu à des serpents.
D'accord, c'est très joli, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Et alors, juste, c'est par exemple cet arbre là, sibérien, c'est toi qui l'a amené ici? Comment il est arrivé? Comment il s'est retrouvé ici?
Moi, je suis passionnée, donc j'ai découvert plein de choses. Je ne me rappelle plus qui m'en a parlé à l'origine, mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas ici avant. D'accord. Les cormiers, il n'y en avait pas trop sur le plateau, mais ça, c'est un bois extraordinaire et un fruit délicieux aussi. Et ça mérite d'être replanté, reconnu.
Ouais.
Voilà, donc je présente le cormier, puis la famille des sorbiers. Il y a le sorbus aria, qui est très bon à manger cru comme ça aussi.
Ouais. C'est de la même famille que
sorbier des oiseaux leurres. Celui-là, on peut le manger, mais seulement cuit, ça ne se mange pas cru. Les argousiers, ça peut s'adapter ici. Ça pousse sur des terrains pauvres, secs, donc ça peut pousser un peu n'importe où.
Et rappelle-nous l'argousse, c'est
très riche en vitamine C. Très, 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 très bon. On en fait souvent des jus parce que il a plein de propriétés. Et c'est un peu délicat à ramasser parce que c'est plein d'épines. Voilà, c'est plein de petits fruits oranges.
Ok. Et alors là, on a l'arbre au faisan. C'est énigmatique, ça, comme...
Oui, c'est comme les oiseaux adorent. Donc, si on veut manger des fruits, si on veut pouvoir les goûter, il faut se lever tôt aussi. Ou alors en planter plein. Alors, c'est un goût de caramel brûlé. Voilà, malheureusement, c'est brûlé. Donc, c'est un petit peu d'amertume du caramel brûlé. Vous pouvez goûter si vous voulez aussi.
Bien sûr.
C'est juste les traits noirs là, qui sont mûrs. Il y a l'amertume quand même, juste derrière. Il y a des gens qui aiment
bien. Ah, mais c'est très bon.
Et quand on n'est pas habitué à l'amertume. Puis c'est très joli toute l'année, c'est facile à planter parce que c'est 1,50 m, ça se place un peu n'importe où.
C'est vrai que c'est des goûts auxquels on est. L'agroalimentaire, toutes ces variétés qu'on a, qui sont très limitées, on a un peu chassé tous ces goûts, un petit peu acides, un petit peu amers, un peu âpres. Enfin, on n'est plus habitué à ça finalement.
Notre palais s'est déshabitué.
Ouais, donc c'est tout un réapprentissage
à faire. On peut se réhabituer petit à petit, quand même assez. Virginie en parlait sur sa petite balade botanique ce matin.
Virginie Larue.
Oui, qu'on n'est même plus habitué à manger des herbes sauvages. Ça fait trop fort en goût. Donc après, dans les plantes sauvages, là c'est un incontournable des vergers. Dans tous les pays anglophones, ils en plantent partout. C'est les éléagnus. Les éléagnus, ils ont la propriété d'augmenter la fructification dans les vergers. Et ça ne se passe pas au niveau des floraisons, parce que la floraison est en septembre, donc elle est décalée par rapport aux floraisons des vergers. Mais ça se passe au niveau des mycorhizes, au niveau de la vie du sol.
Donc les mycorhizes sont ces champignons
sur les racines, qui fait que les plantes communiquent entre elles, se nourrissent les unes les autres, ça porte des choses, voilà, c'est une symbiose... végétal qui se passe pas sous nos yeux, sous le sol. Mais c'est assez extraordinaire tout ça. Il y a quelqu'un qui est passionné par ça, qui est très intéressant, de qui j'apprends petit à petit, c'est Hervé Covès en Corrèze, il n'est pas très loin. On organise des stages avec lui, voilà, sur ce sujet. Super. Donc dans les Eleagnus, il y en a plein. Il y a les Umbelletta qui font des petits fruits, c'est des petites boules oranges, rouges, des fois jaunes, mais plutôt oranges ou rouges. C'est rigolo, les arbres donnent soit des boules oranges, soit des boules rouges, on ne sait pas trop, même si c'est les uns à côté des autres. Et puis, un qui est un peu plus connu, c'est l'olivier de Bohême. Donc c'est aussi un Eleagnus, et ça fait des fruits un peu plus gros. Enfin, je n'en ai pas goûté encore, malheureusement, je n'ai pas encore eu de fructification. Voilà. C'est des beaux arbres, une floraison tous très parfumée, très mellifère. Super arbre à avoir au verger aussi. Après, il y a l'acacia. Donc ça, c'est un acacia tortueux. C'est pareil, on peut utiliser les fleurs. Les fleurs sont parfumées, pareil que les sauvages. On peut les utiliser en beignet. Donc ce qu'on appelle le robinier faux acacia. Hein, voilà. Qui s'adapte ici sur notre terrain, notre climat. Et,
ça, c'est pas pour les fruits, ça.
Ça, c'est plus pour les fleurs. Donc là, ça y est, on est tombé dans la zone plante mellifère.
Ah, nous voici. Nous y voici. Qu'est-ce qu'on appelle plante mellifère ?
Plante mellifère, pour moi, au niveau chacun un peu des différents vocabulaires, pour moi, c'est tout ce que les abeilles, ce dont peuvent bénéficier les abeilles. Donc, c'est non seulement pour le miel, mais pour tout ce qui va leur apporter pour leur vie, pour qu'elles soient en bonne santé. Parce qu'on a tendance à juste réfléchir de manière pour notre propre consommation et la productivité, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a l'équilibre qui est très important. Alors, j'en ai pas amené énormément, mais il y a quand même quelques incontournables. Hein, le tilleul, la bourdaine derrière, le prunus padus, c'est le cerisier en grappe. Ça, c'est extraordinaire aussi. Puis c'est rigolo parce que souvent, les plantes mellifères sont aussi des plantes à parfum pour nous. Avant, je faisais des listes de plantes mellifères et des listes de plantes à parfum. Puis je me suis aperçue qu'il y avait 5 ou 6 qui n'étaient pas mellifères dans les plantes à parfum. Donc, finalement, je mélange tout. Il y a quelques-unes qui ne sont pas des plantes mellifères dans les plantes à parfum, mais l'essentiel... Alors celui-ci, il est extraordinaire, l'Onicera fragrantissima. Il est extraordinaire parce qu'il a une fleur déjà exquise au niveau parfum. On le sent à plusieurs mètres du buisson quand on passe à côté. Et il est en fleur de décembre jusqu'à fin avril. Donc toute la période où il n'y a pas grand-chose, où les abeilles ne dorment pas pendant si longtemps que ça. Donc dès qu'il fait un peu de soleil dans cette période-là, il y a toujours des fleurs en permanence. Et après, celui-là, il a la propriété de faire des petits fruits que moi, je mange. Je ne sais pas, je ne le trouve pas dans les arbres de comestibles, mais il a un cousin, l'Onicera kamchatika, qu'on appelle baie de mai, qui se mange. Et celui-là, il fait des fruits en forme de cœur, des petits fruits roses qui ont un petit peu d'amertume. C'est peut-être pour ça qu'il est peu connu, mais sinon, elles sont excellentes. Alors après, donc les cassis, les cassis à fleurs. Cassis, celui-là, c'est le ribes odorata, c'est le cassis qu'on utilise pour les bourgeons ou... Pour le parfum. Et les abeilles aiment bien aussi. De la cities, des lilas. Après, dans les plantes d'ornement, il y en a beaucoup qui sont mellifères aussi, qu'on connaît peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les grands arbres, le liriodendron, le catalpa, le polovnia, le fraxinus ornus aussi, le frêne à fleurs parfumé.
Fraxinus ornus, c'est le nom latin.
Frêne à fleurs. Oui, j'ai plus les noms latins en tête. Puis après, ici, on est sur des osmanthus. Toute une collection.
Des osmanthus. Oui.
J'ai plein de collections en fait dans la pépinière aussi. De tout ce qui est plantes à parfum, je collectionne pour pouvoir avoir une bonne diversité aussi. Les viornes, c'est extraordinaire aussi pour avoir. Il y a plein de fleurs en hiver. Toutes les viornes d'hiver sont parfumées. Enfin, la plupart. Je ne sais pas s'il y en a qui ne sont pas parfumées. Mais sont des parfums exquis.
Osmanthus, qu'est-ce que c'est exactement?
Osmanthus, c'est une plante qui était utilisée un peu comme le jasmin, juste à côté, là, le jasmin officinal, pour faire des tisanes, du thé au jasmin. Avant, en Angleterre, ils faisaient du thé à l'osmanthe. Donc, on utilise les fleurs. Et elles sont très parfumées, c'est une odeur très douce, comme du miel. Voilà. Ça a des floraisons qui sont relativement étalées dans le temps, donc c'est pas mal pour les abeilles aussi.
On finit là, on arrive sur des plants de pommiers, c'est ça ?
Là, il y a une petite représentation de quelques variétés locales, en fait, mais elles sont plus représentées par les fruits, là, en ce moment. Et sur la table, on trouve aussi des livres, des incontournables, Éric Potiot. Soins naturels aux arbres fruitiers. C'est vraiment quelqu'un qui... J'ai eu la chance de pouvoir faire des formations avec lui organisées par la Chambre d'agriculture en Creuse. Et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il partage. Et j'ai réussi à éliminer le chancre et pas mal de maladies communes comme ça dans les vergers en arrivant. Enfin, il y a 5-10 ans, quand j'ai commencé à faire les formations avec lui, c'est...
Sans les produits phytosanitaires.
avec les... Je ne sais plus comment ça s'appelle, les plantes non dangereuses ou enfin voilà, les préparations à base de plantes.
On peut dire un peu, voilà, si les auditeurs veulent te retrouver, faire appel à toi, aller voir, voir ta pépinière.
Ouvert seulement à partir de la Sainte-Catherine, parce que je fais pour pouvoir faire de la qualité. Bon, j'ai quelques plants en pot pour pouvoir présenter sur les marchés, tout ça. Mais sinon, l'idéal, c'est à partir de la Sainte-Catherine, parce qu'à ce moment-là, la plupart des arbres ont perdu leurs feuilles. Et pour qu'un arbre repousse bien et reprenne bien, c'est le moment idéal. Et donc, y a des portes ouvertes le 20, 21, 22 novembre. Et après, bon, j'ai des marchés, donc je ne suis pas toujours là. Il vaut mieux venir lors des portes ouvertes. Et sinon, il faut téléphoner. Ça ne marche pas par visite surprise.
Alors, comment on peut te contacter alors ?
Alors, j'ai un téléphone, et j'ai des petits dépliants que je distribue. Et sinon, il y a un petit site internet qui n'est pas très, très fourni pour l'instant, mais les Jardins de Perlada.
Alors, donc le numéro de téléphone, c'est quoi ?
07 81 14 84 11.
Okay. Et le site internet, l'adresse ?
C'est http://jardin-2-perlada.
Alors Perlada, P-E-Y-R-E-L-A-D-A-S. Voilà.
.dequequer.com.
Ok. Alors, et de Quequer aussi, c'est le fameux céramiste.
D-E-Q-U-E-K-E-R. Ouais.
C'est ça. Donc, en tout cas, à côté de pas très loin d'Aubusson.
Ars, la commune.
Voilà.
Okay. Il y a des portes ouvertes. Sinon, si vous me donnez votre mail, je vous envoie toutes les listes, des descriptifs de tout ce que je fais, des tarifs, tout ça. Donc, c'est très facile par mail aussi de fonctionner comme ça. Et puis, il y a des portes ouvertes toute la période hivernale, c'est-à-dire presque toutes les deux semaines, en décembre, janvier, février, mars. Voilà.
Et on peut acheter des céramiques aussi.
Un petit peu, ouais.
Merci beaucoup.
Merci.